Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Vous allez en effet retrouver tout de suite Jean-Louis Chambon qui reçoit Nicolas Bavrez, nominé pour le prix Turgot 2008 pour son ouvrage « En route vers l'inconnu ».
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour ce nouvel éclairage qui nous donne le grand plaisir d'accueillir Nicolas Bavrez qui vient de faire paraître chez Perrin un nouvel ouvrage, En route vers l'inconnu, qui est déjà salué par les observateurs comme un grand exercice intellectuel de réflexion économique, historique et politique. Nicolas Bavrez, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir à Canal Académie. On vous voit partout, dans les allées de l'Élysée comme sur les médias. Mais vous tenez à conserver un temps pour la réflexion. Et cette réflexion, vous la servez, je dirais, par une attitude hélicoptère, c'est-à-dire prendre de la hauteur pour voir l'essentiel et puis de temps en temps redescendre pour voir les détails. Alors vous servez cette approche par cette discipline, en quelque sorte, carrément de vie, par l'écriture. Et j'ai cru comprendre que pour vous, l'écriture, c'était pas simplement qu'une simple nécessité. C'était un plaisir, peut-être une passion.
Il est vrai que dans des périodes de grands bouleversements comme celles que nous connaissons, au moment où l'histoire accélère, il faut à la fois essayer de comprendre des temps qui sont nouveaux, et puis d'éclairer, de faire une pédagogie de ces changements, et puis d'essayer également de faire des propositions pour que les citoyens puissent se déterminer et voir les gouvernants essayer de peser sur des événements dont, que pour une part, personne n'avait prévu.
D'accord. Mais enfin, écrire, c'est quelque chose qui vous tient.
Écrire, c'est très important parce que c'est une forme de réflexion, c'est une discipline intellectuelle. Et puis le fait de coucher la pensée sur le papier, ça oblige à la préciser, à la construire. Et d'une certaine manière, c'est une espèce d'épreuve de vérité. Quand une pensée résiste à l'écrit, c'est normalement qu'on a peut-être une chance d'avoir approché une forme de vérité.
Eh écoutez, on va voir. Là, je crois qu'elle n'a pas résisté à l'écrit, votre pensée. Donc, nous allons aller à la découverte, à travers votre ouvrage, de cette terra incognita, sur laquelle vous avez un regard tout à fait personnel. Avant peut-être de rentrer dans cet aspect de notre entretien, je voudrais quand même rappeler votre parcours exceptionnel. Vous êtes normalien, Ulm, je suppose, plutôt littéraire.
Oui.
Hein, vous êtes un littéraire. Un
historien.
Historien, d'accord. Okay, d'accord. Bien, nul n'est parfait.
Ouais, exactement. Mais il y a quand même une proximité avec les lettres, normalement.
Je crois. Historien et économiste, vous êtes énarque, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, chroniqueur, vous êtes un auteur prolifique dont chacune des parutions est un stimulant pour la classe politique et les économistes. Quelques exemples, 30 piteuses, on s'en souvient, chez Flammarion, La France qui tombe, qui avait été aussi un grand moment chez Perrin, ou bien encore Le Nouveau Monde, Vieille France. Alors vous êtes un économiste classé plutôt libéral, on dira.
J'assume.
Hein, vous assumez. Vous êtes l'un des conseillers très écoutés du président Sarkozy. On dit même que vous êtes l'un des inspirateurs du discours de Toulon. Et par contre, vous n'hésitez pas à égratigner d'autres conseillers lorsque vous le jugez nécessaire. Alors vous êtes un homme de conviction et d'engagement. On vous a vu claquer la porte d'un grand quotidien national lorsque vous avez considéré que votre liberté d'expression n'était plus garantie. Et vous assurez aussi résolument la défense de grands patrons lorsque vous considérez qu'ils sont injustement mis en accusation. Voilà donc ce que je voulais dire pour vous présenter. Avant de rentrer donc dans votre livre lui-même, je voudrais faire un détour par l'actualité, qui est donc celle de la crise financière mondiale, que vous abordez d'ailleurs hein, à un moment donné dans votre ouvrage. Et pour nous mettre dans l'ambiance, avant de vous laisser répondre et développer votre pensée, je voudrais lire page 21 de votre ouvrage, ce que vous écrivez. « Dans le domaine économique, la crise financière met pour l'heure en échec les instruments traditionnels de la politique monétaire, budgétaire et industrielle. De l'injection de liquidités et de la baisse des taux d'intérêt au soutien de la demande via la dépense publique en passant par les nationalisations bancaires. L'inflation et le chômage effectuent un retour en force. jetant en pleine lumière les limites des possibilités d'action des gouvernements et des autorités monétaires. Les conséquences économiques et sociales des chocs touchent en priorité les plus défavorisés, accroissant des inégalités qui échappent de plus en plus aux mesures de redistribution. Turbulence de la mondialisation et trou d'air du politique vont donc de pair, et ce, conforte, déstabilisant les démocraties qui sont prises en tenaille entre l'angoisse de leur opinion publique devant leur déclin relatif et la pression des nations émergentes. D'où la tentation de rechercher la solution non dans l'invention de formes politiques neuves, mais dans la réactivation des recettes éculées du passé, le corporatisme, l'étatisme, le nationalisme et le protectionnisme. Alors on voit que c'est un ouvrage qui ne traite pas simplement que d'économie, ce qu'on peut dire. Et alors, on en vient donc à la crise. Dans le prolongement de ce que je viens de lire, on peut dire qu'aujourd'hui, le diagnostic sur la crise a été à peu près fait.
Il est à peu près fait. Simplement, ce qu'on peut juste indiquer, c'est qu'il y a deux types de crises du capitalisme. Il y a des chocs ponctuels, comme on en a eu en 87 avec le crack, en 97 avec la faillite d'un fonds qui s'appelait LTCM et puis la crise asiatique, 98 l'effondrement de la Russie, 2000-2001 l'Argentine, et puis 2001 également le crack des nouvelles technologies. Ça, ce sont des chocs ponctuels. Ce que nous avons là devant nous, c'est clairement une grande crise du capitalisme, qui est une crise globale. C'est pour ça que toutes les idées de découplage étaient fausses, que ce soit entre économie financière et économie réelle, ou l'idée que c'était une crise purement américaine ou purement immobilière. C'est une crise globale du capitalisme qui va donc amener de nouveau une transformation du capitalisme, comme on en a connu dans les années 1930 avec le passage à la norme fordiste de capitalisme, comme on en a connu à partir des années 1980 avec le retour à une norme plus libérale de fonctionnement du capitalisme. Donc aujourd'hui, c'est bien le capitalisme mondialisé qui est en crise et qui va devoir se réinventer.
Alors, pour l'instant, donc, l'ordonnance a été donnée. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à sauver tous les malades ?
Alors, l'ordonnance, j'allais dire, sur les mesures d'urgence, c'est vrai que nous avons affaire à une énorme déflation par la dette. Il y a deux grands économistes qui ont réfléchi là-dessus dès l'entre-deux-guerres. Irving Fisher, d'un côté, qui a pointé qu'il fallait laisser les banques se restructurer et en même temps les recapitaliser. Et puis Keynes, qui a expliqué que les marchés devaient être réassurés par la puissance publique. Donc aujourd'hui, on est quand même, me semble-t-il, après un temps de retard sur des mesures qui sont bonnes. Premièrement, sauver les banques en garantissant à la fois leurs actifs, en les recapitalisant et en garantissant le marché interbancaire. Deuxièmement, soutenir l'activité et l'emploi parce qu'on va avoir en 2009 une des récessions les plus brutales depuis 1945. Troisièmement, venir en aide des plus défavorisés et des moins qualifiés parce que ce sont ceux qui vont subir le poids principal du choc. Et enfin, et ça c'est très important, et je renvoie avec ce que vous avez eu l'amitié de citer, privilégier des politiques concertées de la part des grands États et également entre le Nord et le Sud pour éviter ce qu'on a eu dans les années 30, c'est-à-dire l'emballement des mesures protectionnistes, des dévaluations compétitives qui avaient entraîné dans les années 30 une diminution des trois quarts du commerce mondial. Donc il faut arriver aujourd'hui, grâce à cette coopération, à conserver et à maintenir les éléments positifs de la mondialisation, c'est-à-dire la croissance des échanges et puis le mouvement d'innovation technologique, parce que c'est là-dessus qu'on peut également essayer de construire une sortie de crise.
Donc vous voyez aussi des conditions, on va dire, de rebond qui sont la conséquence, on va dire, inverse de la crise très profonde que l'on connaît. C'est-à-dire que la conséquence, ça peut être une prise de conscience généralisée, une régulation un peu plus cohérente et une notion plus forte d'une certaine solidarité.
Bien sûr. Donc, il y a eu des erreurs gigantesques qui ont été commises. Donc, il y a une politique monétaire américaine trop accommodante. Il y a eu une déréglementation ou, j'allais dire, la prolifération de toute une partie du secteur financier hors réglementation, parce que les banques commerciales, par exemple, ont toujours été régulées. Plus, donc, un modèle économique qui était un modèle de développement à crédit pour les États-Unis et des pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Irlande. Donc, ces pays-là s'endettaient pour consommer et importer. Et en face, on avait des pays comme la Chine, le Japon, l'Allemagne, qui, eux, épargnaient, investissaient et exportaient. Aujourd'hui, c'est tout ce modèle-là qui est en crise. Donc, il va falloir sortir de cette espèce de drogue qui était le crédit, mais qui alimentait également ceux qui exportaient. Il ne faut jamais l'oublier. Donc,
c'est ça, ouais.
À partir du moment où il n'y a plus de consommateurs chez les uns, il y aura moins de producteurs chez les autres. C'est pour ça que c'est un choc global et le choc d'un modèle.
Oui, donc, comme disait quelqu'un, il faut être deux pour danser le tango. Et là, le tango, c'était entre les USA et la Chine.
Voilà, donc c'est bien la fin d'un cycle économique, qui est le cycle qui avait démarré à la fin des années 70, avec la politique monétaire qui était la seule politique autour de laquelle se faisait le réglage macroéconomique dans les pays développés, avec la baisse des taux d'intérêt et de l'inflation, et avec les politiques de privatisation, de libéralisation et de retrait des États. Ça, il est clair que tous ces éléments vont devoir être repensés. Donc on va avoir un monde, et c'est là où le capitalisme va devoir changer, un monde où il y aura certainement plus d'États et de réglementations, un monde également où les entreprises vont devoir apprendre à gagner leur vie à partir de leur compte d'exploitation et non plus du jeu sur les actifs, un monde où le Sud va continuer à émerger et à accroître son rattrapage, puisque les pays du Sud représentent aujourd'hui déjà la moitié de la production mondiale, 75% des réserves de change, et que leur rôle va être accru par les difficultés du Nord, puisque, j'allais dire, cette désintoxication du crédit va amener des croissances. Oui.
C'est ce que vous appelez le monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des équilibres qui sont beaucoup plus répartis que le...
Voilà. Alors, des déséquilibres,
oui, c'est
parce
ça.
Que, en réalité, on a beaucoup critiqué l'hyperpuissance des États-Unis. D'abord, c'était un mythe. On le voit bien aujourd'hui en matière stratégique. Les États-Unis sont bloqués en Irak ou en Afghanistan. C'était un mythe également pour l'économie et la finance, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis, on peut dire, sont en faillite ou sous Chapter 11, pour reprendre les termes de droit américain. Et puis, il y a aussi une dimension, j'allais dire, de faillite morale et idéologique du néo-conservatisme. Donc ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que finalement, en tout cas depuis 1945, le monde a vécu avec l'idée d'une suprématie absolue des États-Unis qui leur permettait quand même de réassurer les chocs. Aujourd'hui, c'est un monde multipolaire avec États-Unis et Chine assurément parmi les deux grands. L'Europe, si elle arrive à capitaliser sur les progrès qu'elle a fait, notamment en matière de gouvernement économique, peut prétendre également être un de ses pôles. Et derrière, on aura des pôles secondaires comme la Russie, l'Inde, le Brésil, peut-être l'Afrique du Sud, si elle arrive à conjurer le risque d'être un nouveau Zimbabwe. Mais tout ceci, quand on regarde l'histoire, chaque fois qu'on a eu des mondes multipolaires, ça a été des mondes instables. Parce qu'il y a toujours un mélange de coopération et de rivalité.
D'affrontement, ouais.
Quand on prend par exemple les monnaies, chaque fois qu'on a eu un double étalon or et argent, ou livres et dollars, à chaque fois, ça a créé des problèmes.
Des effets pervers, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, c'est instable. Donc là, si on doit aller vers plusieurs monnaies internationales, dollars, euros et peut-être demain le yuan, ça ne sera pas forcément un système stable. Et d'où l'importance de lui donner des institutions qui permettent de gérer ces nouvelles tensions qui apparaîtront nécessairement.
Oui, alors donc que vous en concluez, page 53, le caractère critique de la crise financière exige des mesures d'urgence pour assumer le sauvetage des institutions financières, notamment face au risque de contamination, de la faillite des ressorts de crédit, etc. Alors le libéral que vous êtes, il se sent comment par rapport à ces plans gigantesques où les États se mettent en avant ?
Il y a deux aspects. D'abord, sur l'économie, il ne faut pas confondre l'urgence et puis le moyen terme. Je rappelle que Keynes lui-même était un libéral. Certains de ces émules ensuite sont devenus des farouches partisans des nationalisations ou d'une politique industrielle conduite par l'État. Ce n'est pas du tout le cas de Keynes. Keynes est un libéral qui raisonne dans une situation très particulière où les marchés ne fonctionnent plus. Il se trouve que c'est exactement la situation d'aujourd'hui. Donc bien sûr, il faut utiliser les ressorts de l'État, mais il faut bien comprendre aussi que le but, ça n'est pas de réétatiser les économies, mais au contraire de permettre le retour le plus rapide possible
à la normale.
Fonctionnement normal des marchés et également de l'état de droit, puisqu'on s'est quand même émancipé de toute une série de règles qui sont importantes. C'est d'autant plus important que aujourd'hui, on est en train de reconstituer une nouvelle bulle spéculative autour des États et des banques centrales.
C'est ça.
Ce qui veut dire que la prochaine fois, si on laisse cette bulle s'installer, eh bien, il n'y aura plus de recours, il n'y aura plus de capacité de réassurance des marchés lors d'un prochain choc. Donc, il va falloir que les États, comme les ménages ou les entreprises, se désendettent, que les banques centrales, qui sont devenues d'énormes caisses de défaisance, puisque maintenant, elles acceptent du papier commercial, donc c'est devenu des banques de marché, il va falloir qu'elles retournent à leur rôle de prêteurs de dernier ressort, sauf sinon à ce qu'elles soient happées par le prochain choc et qu'en réalité, on s'aperçoive qu'elles sont devenues des banques commerciales comme les autres. Donc, Il y a une grande illusion aujourd'hui, c'est de croire que les États ou les banques centrales ne peuvent pas faire faillite. En réalité, elles le peuvent. Et d'ailleurs, on a eu des exemples dans l'histoire.
Elles
d'où l'importance du retour à la normale. Donc ça, c'est le premier point. Et juste si je peux répondre rapidement sur le libéralisme.
Tout à fait.
On confond aujourd'hui le capitalisme et le libéralisme. Le capitalisme, c'est un mode de production dont on voit aujourd'hui qu'il peut fonctionner avec des systèmes libéraux, c'est le cas à l'Ouest,
mais aussi en
Russie avec le FSB capitalisme ou en Chine avec un système totalitaire. Le libéralisme, c'est une doctrine politique qui repose sur la balance et la modération des pouvoirs, sur un jeu entre autorité et responsabilité. Et donc, cette crise, ça n'est pas celle du libéralisme, c'est parce qu'on s'en est écarté. Et d'ailleurs, le néoconservatisme aux États-Unis, c'est un antilibéralisme.
D'accord.
On l'a vu avec le Patriot Act, avec un certain nombre d'initiatives en matière de liberté publique, et on l'a vu également dans la gestion de l'économie.
Oui, donc ce qui se passe est en ligne avec votre pensée.
On aura d'un côté une mutation nouvelle du capitalisme, mais de l'autre côté, pour réassurer ce capitalisme, il faut revenir aux principes libéraux dont on s'est effectivement écarté.
Bien, et bien, nous allons poursuivre dans quelques instants après une courte pause.
1958-2008, la 5e République fête ses 50 ans. À cette occasion, retrouvez sur Canal Académie les académiciens ministres sous cette constitution. Michel Debré, Alain Decaux, Maurice Druon, Max Gallo, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Messmer, pour ne citer que quelques noms. Retrouvez-les sur Canal Académie et téléchargez librement nos émissions consacrées à ces personnages de l'histoire.
Nous reprenons notre entretien avec Nicolas Bavrez, qui vient de faire paraître chez Perrin En route vers l'inconnu. Et nous en étions au point où nous voulions regarder dans ce diagnostic quelles étaient les principales mutations structurelles que cette crise avait entraînées. Alors vous avez dit que le capitalisme était touché en plein cœur. Vous avez dit qu'on arrivait à la fin d'un cycle économique et qu'en plus, l'Occident était menacé. Alors ça, peut-être ce point, vous pouvez un peu plus le développer. Il est menacé par des risques asymétriques, en particulier au niveau des valeurs morales. Vous avez quelque chose sur ce point? Sinon, je peux vous rappeler ce que vous avez écrit à la page 54 de votre ouvrage. « Au-delà des institutions du marché et de ses règles, le capitalisme est indissociable d'un esprit et d'une éthique. L'esprit n'est pas à chercher dans la captation du profit ou la maximisation des rentes, mais dans la prise de risque librement consentie et le pari de l'innovation. L'éthique, c'est la responsabilité qui croît avec la réussite, qu'elle soit celle de l'entreprise ou de ses dirigeants. Face au totalitarisme soviétique, Solzhenitsyn rappelait que la part essentielle de notre liberté est intérieure, elle dépend de notre volonté. Si nous cédons nous-mêmes à la corruption, nous n'avons plus le nom d'homme. Face à la crise du capitalisme mondialisé, la responsabilité des dirigeants d'entreprise se trouve directement engagée au plan juridique et économique, mais aussi au plan moral. Il dépend d'eux de céder à la corruption ou de respecter les valeurs fondamentales de la liberté économique. Alors, est-ce que l'Occident est armé pour à la fois résister à d'autres pressions, d'autres influences et se régénérer?
Alors, il y a clairement un grand travail à faire. Comme on l'a dit, la crise d'aujourd'hui, c'est la crise d'une forme du capitalisme, le capitalisme mondialisé. Donc, il va évidemment devoir évoluer et on peut travailler autour de trois grands thèmes. Premièrement, il est vrai que la mondialisation financière est allée plus vite que la mondialisation économique et la mondialisation économique beaucoup plus vite que la mondialisation politique qui, elle, est restée dans les limbes. Donc, ce capitalisme ne peut vivre sans un certain nombre de structures politiques qui permettent notamment de dialoguer entre le Nord et le Sud. D'où les propositions de transformer le G8 en G14 ou en G20, ce qui permettrait au Nord et au Sud de dialoguer. D'où les projets de réforme de la Banque mondiale ou du FMI. Il faut aussi réfléchir aux règles. On a vu qu'on a mis en place des règles comptables. D'ailleurs, au départ, pour essayer de remédier au scandale Enron, ces normes dites de la Fair Market Value, donc qui alignent la comptabilité sur les prix de marché. Quand le marché devient un non-sens, quand le marché affiche des prix qui n'ont plus rien à voir avec les valeurs des actifs, eh bien, on voit que c'est un système procyclique extrêmement dangereux qui a été un accélérateur de crise. Ouais. Donc, ces règles comptables, il va clairement falloir y réfléchir. De même, il va falloir, et c'est le lien lien avec le troisième plan qui est l'éthique, réfléchir aux règles de rémunération des dirigeants, mais également d'un certain nombre d'opérateurs de marché. Donc, contrairement à ce qu'on dit, le capitalisme est certes un mode de production, mais comme tout mode de production, comme toute activité humaine, il ne peut pas vivre sans éthique. Et l'éthique du capitalisme, c'est l'idée qu'on est rémunéré en fonction du risque et qu'on est rémunéré en fonction de ses performances. Quand on a, selon la célèbre formule, un certain nombre de systèmes qui fonctionnent avec « face je gagne, pile tu perds », ça, clairement, ça ne va plus. Et donc, c'est malheureusement ce qu'on a vu dans un certain nombre de cas. Donc, il y a une éthique de l'entreprise. C'est d'ailleurs une des grandeurs du droit français que de reconnaître une personnalité morale à l'entreprise, d'expliquer qu'elle a un intérêt social propre qu'il faut respecter. Et là-dessus, je pense que le droit français exprime très bien une réalité importante. Donc, il y a un bien commun également dans la vie économique et il doit être défendu par un certain nombre de règles juridiques, mais également par un principe de responsabilité de ceux qui en ont la charge.
Mais ce désir de morale qui est celui qui résulte de l'épreuve de l'opinion, quasiment du tribunal de l'opinion, il va très au-delà des simples aspects financiers, de rémunération et de golden parachute ou de welcome doré. Ça va beaucoup plus loin, ce désir. Je crois que ce serait une erreur, enfin je sais pas, je voudrais vous entendre là-dessus, de penser qu'on réglera ce problème et cette grande demande de désir moral simplement en traitant les aspects des rémunérations un peu trop excessives de Père Paul ou Jacques. Enfin,
on est bien d'accord, c'est une pédagogie qui d'ailleurs s'exerce aussi vis-à-vis des jeunes. On a très bien vu dans un certain nombre de cas récents que des opérateurs de marché pouvaient ruiner des entreprises plusieurs fois centenaires uniquement pour un bonus. Et ça montre, j'allais dire, mais ces jeunes, c'est d'une certaine manière, ce sont nous qui les avons formés. Donc c'est quand même une grande question. Mais ce n'est pas seulement l'opinion qui demande de l'éthique, c'est la vie économique et c'est l'entreprise, puisqu'il ne faut jamais oublier que la sanction de ces comportements déviants, c'est la disparition des entreprises. On l'a vu avec Arthur Andersen, qu'on pensait être une entreprise armée pour durer plusieurs siècles. On l'a vu récemment. Je rappelle que la banque d'investissement américaine, il y en avait 5 grandes qui étaient considérées comme le fleuron du capitalisme mondial et du capitalisme américain. Il n'en reste plus une dans la forme. Il y en a 2 qui ont été mises en faillite et qui ont été plus ou moins reprises. Et puis, il y en a une qui a été adossée. Et puis, les 2 dernières qui sont Goldman Sachs Morgan Stanley ont dû changer de statut et devenir des banques commerciales pour se placer sous l'ombrelle de la Fed, donc de la Banque centrale américaine. C'est bien dire que l'éthique, c'est pas seulement un besoin pour l'opinion, c'est un besoin de l'économie pour arriver à la faire fonctionner. Et là encore, ça ne s'arrête pas aux entreprises. Cette crise, elle est aussi une crise de la politique et c'est aussi une crise de l'éthique dans le champ politique. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé avec les dérives du néoconservatisme aux États-Unis.
Tout à fait. Alors, on en vient, après ce diagnostic sans appel, aux solutions que vous préconisez. Et on va dire que la grande thèse centrale de ces solutions, c'est le libéralisme économique, clé du XXIe siècle, que vous déclinez ensuite sur différentes lignes, à commencer par les citoyens des démocraties, les Européens et les Français. Alors, sur les 2 premiers, on reviendra un peu sur les Français. Qu'est-ce que...
Le libéralisme, il n'est pas seulement économique, il est d'abord politique, c'est-à-dire revenir à ces grandes idées selon lesquelles, j'allais dire, y compris... C'est pour ça que l'autorégulation des marchés, c'est vraiment un mythe et pas du tout un mythe libéral. Les marchés sont une institution parmi d'autres, vitale, puisque quand on n'a pas d'économie de marché, on n'a pas de démocratie, même si on peut avoir, en revanche, on peut avoir du marché sans démocratie, comme on le voit aujourd'hui en Chine. Mais donc, ces institutions, elles ont toujours vocation à être encadrées, contrôlées par d'autres. Donc, il n'y a pas de pouvoir économique qui puisse s'autonomiser et s'autoréguler, de même qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire qui peut faire la même chose. Et c'est vrai également des banques centrales. Donc, nous avons tous essayer d'abord de remettre de l'ordre dans nos pays. Et c'est quand même au-delà de l'économie. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis la chute du mur de Berlin, on a vu arriver toute une série de grandes surprises, de grands chocs qui n'étaient pas prévus. Il y a eu le 11 septembre 2001. Récemment, cette crise du crédit avec l'effondrement complet du marché du crédit à partir du 15 septembre 2008. Et l'expérience montre que nous sommes extrêmement désarmés face à ces chocs. Donc, il faut améliorer la capacité de résistance de nos nations, ce qu'on appelle parfois la résilience. Ensuite, il faut que les démocraties qui restent aujourd'hui minoritaires dans le monde, puisqu'elles sont grosso modo une soixantaine sur 192 États présents à l'ONU, eh bien, il faut que ces démocraties retrouvent un socle commun de valeurs qui a été mis à mal récemment dans l'ordre géopolitique, dans l'ordre économique et puis dans l'ordre intérieur également, avec des atteintes aux libertés publiques qui sont quand même tout à fait inquiétantes et qui ne se limitent pas là encore aux États-Unis. Et puis, il faut, dans ce nouveau monde totalement interconnecté et multipolaire, trouver un certain nombre d'enceintes pour pouvoir, là encore,
et vous avez...
gérer ces chocs.
Vous y voyez l'Europe aussi.
Et j'y vois l'Europe à condition qu'elle sache se doter, là encore, de moyens d'action. C'est Ilia Lévy qui rappelait que la diplomatie sans la menace de la force armée n'est que jappement de roquet. Et c'est un peu la même chose. Si, sur l'économie, on peut dire beaucoup de choses. Si on n'a pas de moyens d'action, et une des grandes conclusions de ce qui se passe, c'est quand même que... En Europe, le seul bras armé de la politique économique, c'est la Banque Centrale Européenne et donc la politique monétaire. On voit très bien aujourd'hui qu'en face de la politique monétaire, il faut pouvoir jouer des autres instruments, la politique budgétaire, la politique fiscale, la politique industrielle. Il va bien falloir donc balancer ce pouvoir de politique monétaire par des instruments communs dans ces domaines-là qui ont existé, qui ont pris corps, j'allais dire, le 12 octobre dernier, mais de manière totalement informelle,
c'est ça, oui.
Avec la réunion de l'Eurogroupe, mais dans l'urgence, à chaud, parce c'est qu'il ça. Fallait sauvegarder le système bancaire européen.
Sans avoir structuré et réfléchi.
Ce qui est fascinant quand même aujourd'hui, c'est que quand on regarde les banques, c'est là qu'on voit vraiment ce que c'est qu'un choc systémique. Nous avons dans le monde des pays extrêmement différents, dirigés par la droite, par la gauche, des sociaux-démocrates, des libéraux, des États totalitaires, etc. Ce qui est quand même fascinant, c'est de voir qu'en quelques semaines, les banques du monde entier ont été en situation de défaut. Oui. Et qu'elles ont dû être recapitalisées aux États-Unis, comme en Russie, comme en Chine, comme en Europe. Et on mesure bien donc dans ce cas-là, et ça les Chinois d'ailleurs l'ont très bien compris, que quel que soit le jugement qui porte sur la manière dont l'économie américaine a été gérée et régulée, aujourd'hui, il est aussi de leur intérêt d'éviter une spirale déflationniste très violente se mette en place aux États-Unis parce que ça sera une situation type années 30 où tout le monde, avec une catastrophe économique mondiale. Ouais. Et il y a bien un intérêt commun à essayer d'éviter ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'institution qui permette de le mettre en œuvre et d'essayer de le garantir. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire.
Et alors, un mot sur la situation française. Là, vous êtes un peu dur, semble-t-il. Je lis ce que vous dites. Aux Français revient de cesser de s'illusionner et de se complaire dans l'ambiguïté autour du libéralisme. L'exception historique française provient de la succession de déroutes et de phases d'effondrement abyssal, puis de succès et de redressement météorique.
Si vous voulez, quand on regarde la France froidement, il y a donc deux couches de problèmes qui se superposent. Un quart de siècle de déclin économique et social et une des crises les plus violentes. Comme on était en avant-dernière position, j'allais dire, ou en dernière, en concurrence avec l'Italie dans la zone euro, l'idée de croire que le pays qui est le plus en difficulté va être épargné par une crise mondiale de cette ampleur, c'est une idée complètement fausse. Évidemment, nous sommes touchés, et nous sommes touchés au moins autant, voire plus que les autres. Et c'est pas très étonnant de voir que le pays européen qui, pour l'instant, résiste le mieux, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne avait, grâce aux réformes, reconquis sa place de premier exportateur mondial parce qu'elle avait, elle était retournée à l'équilibre de ses finances publiques, parce qu'elle avait considérablement diminué le chômage. Donc, à court terme, les nouvelles pour l'économie française, elles vont être extrêmement dures. C'est un pays qui va avoir une croissance négative en 2009, avec un taux de chômage qui va remonter autour de 9%, voire au-delà, avec des déficits publics qui vont aller autour de 4%, avec une dette publique autour de 70%. Simplement, au-delà des mesures d'urgence, c'est pour ça qu'il faut préparer notre pays pour le positionner reprise mondiale. Et le repositionner pour la reprise mondiale, c'est faire la même chose que lutter contre son déclin, c'est-à-dire d'un côté améliorer l'offre productive, de l'autre côté réformer les services publics. Le mot commun, qu'on soit dans le public ou dans le privé, c'est le mot productivité. Aujourd'hui, notre pays doit redevenir un pays qui épargne et qui investit pour être positionné de manière efficace dans l'univers de la mondialisation.
Et vous pensez que la crise est de nature plutôt à lever les blocages ou à les accentuer ?
La crise, comme toujours, si on revient à l'étymologie, c'est crisis en grec, c'est la phase ultime de la maladie où on peut guérir ou succomber. Oui. Donc la crise, elle est aussi une crise, ça fait passer les actifs, les activités, les emplois des mains faibles vers les mains fortes. La France est aujourd'hui une main faible, il revient à elle de se remettre dans le camp des mains fortes. Et c'est vrai que les crises redistribuent les cartes, donc ça peut être une bonne occasion de le faire. Regardez ce qui s'est passé en matière politique. La présidence française de l'Europe est un succès. C'est un succès qui se fonde sur des choses que nul n'avait prévues, c'est-à-dire la gestion de la crise géorgienne d'un côté et ensuite la gestion de la crise financière de l'autre, avec dans les deux cas des solutions intelligentes qui ont pu être apportées dans l'urgence. Donc ça montre bien qu'une crise, des chocs, c'est aussi un monde d'occasions qui peuvent être mises à profit pour combler le retard. Donc aujourd'hui, les choses sont ouvertes. Soit cette crise est l'occasion pour l'opinion française de faire un formidable mouvement régressif, de retourner vers l'économie fermée et administrée et la nationalisation, mais à moyen terme, des banques, des assurances, etc. Là, c'est catastrophique et on va en reprendre pour un demi-siècle de déclin et on va définitivement passer en deuxième, voire en troisième division au sein des nations qui essaieront de structurer le 21e siècle. Soit on en profite de fait pour accélérer les réformes, se repositionner, essayer d'attraper de s'accrocher le plus vite possible à la reprise mondiale. Et à ce moment-là, la France peut refaire une partie du terrain perdu. Mais l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Hein. Ce sont les hommes qui la font, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, comme le rappelait Raymond Aron.
Oui, Raymond Aron, qui était un de vos maîtres.
Oui, enfin, sur lequel j'ai beaucoup travaillé.
D'accord, je crois m'en souvenir. Alors donc, en route vers l'inconnu, sur cet inconnu, cette terre incognita, on y trouvera quoi en deux ou trois grandes lignes? On y trouvera de la complexité, c'est sûr. Est-ce qu'on y trouvera peut-être de la solidarité?
Non, mais je crois
qu'est-ce qu'on ne trouvera pas?
Le maître mot, ça va rester la mondialisation. C'est vraiment le principe de l'époque historique que nous vivons, le principe de cette première moitié du XXIe siècle. Donc ça signifie que, je pense, les liens entre les sociétés et les économies vont continuer, je l'espère, à se renforcer. Cela signifie aussi que plus on mondialise d'un côté et plus on a des identités culturelles et des conflits de valeurs qui s'exacerbent. Donc c'est bien toujours autour de cette dialectique que va se construire le monde du XXIe siècle. Les grands défis, comme je l'ai dit, c'est pour les démocraties. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que le capitalisme qui marche, eh bien, il marche dans des pays comme Singapour, il marche dans des pays où la liberté est contrôlée ou limitée, oui, même s'il y a une libéralisation progressive de tous ces États. Donc, le grand défi pour les démocraties, c'est d'arriver à montrer que, avec toutes les imperfections qu'elles peuvent avoir, mais que la liberté politique reste la meilleure manière de gérer à la fois une économie et une société. Et en même temps, de garantir leur unité dans un monde où elles sont minoritaires. Pour l'Europe, le défi, c'est de faire partie de ces grands pôles qui vont structurer le XXIe siècle, et ça n'est pas gagné. Pour le Sud, le grand défi reste le rattrapage de l'Occident. Donc c'est autour de ce mélange de rivalité, mais aussi de solidarité que va s'organiser l'histoire du XXIe siècle.
Et quel scénario vous privilégiez pour la sortie de crise? Une sortie très, très lente ou en un mot, enfin, ou
comme je l'ai dit, je crois, comme c'est un choc global, les chocs ponctuels que nous avons eus en 87, 97 ou même 2001, la sortie de crise a été rapide autour de 12 à 18 mois et elle a été assez dynamique en réalité. Je crois que là, nous aurons une sortie de crise extrêmement lente, progressive, chaotique, avec un certain nombre de retours en arrière, parce que notamment les États-Unis sont quand même très affaiblis et vont le rester longtemps. Donc la croissance américaine restera au-dessous de la croissance potentielle pendant plusieurs années à cause du temps qu'il va falloir prendre pour résorber les gigantesques monceaux de dettes. On va en annuler certains, mais il va quand même falloir les... Et ce mouvement-là, il va prendre du temps. Également parce que, en réalité, on a trois chocs qui se superposent. Premièrement, le choc immobilier, et un krach immobilier, c'est au moins 5 ans. Donc, ça a démarré en 2005 aux États-Unis. Ouais. Ça va durer au moins jusqu'en 2010. Le choc de l'effondrement du crédit et puis le krach boursier.
Ouais.
Le krach boursier, ça peut se régler assez vite. En revanche, effondrement du marché de l'immobilier et effondrement du crédit, ça, ce sont malheureusement
des
poisons à effet lent et avec des effets de retard importants. On n'a jamais expérimenté 2 mois sans crédit. C'est la première fois de l'histoire du capitalisme. Les séquelles seront forcément extrêmement lourdes.
Donc, en route vers l'inconnu avec Nicolas Bavrez. Et pour nous quitter, je reprendrai une partie des pensées de Pascal que vous citez en introduction de votre livre. « Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertain et flottant. » L'état qui nous est naturel est toutefois le plus contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme et une dernière base constante pour y défier une tour qui s'élève à l'infini, mais tout notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. Alors, j'espère que cet inconnu, ce n'aura pas l'abîme.
Non, mais pour rester avec Pascal, Pascal, c'est aussi l'homme de la raison. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de signes d'espoir, l'un d'entre eux étant que la raison politique permette à la fois d'essayer de discerner ce monde, d'essayer d'en comprendre les ressorts, et bien évidemment d'en comprendre les ressorts pour peser sur lui, essayer de le stabiliser, de profiter du meilleur de la mondialisation, tout en gérant mieux un certain nombre de chocs et en se préparant aux surprises de l'histoire que l'histoire nous réserve et qui seront sûrement nombreuses encore au XXIe siècle.
Eh bien, nous restons sur cette note d'optimisme en vous remerciant une nouvelle fois et en rappelant votre parution. Nicolas Bavrez, En route vers l'inconnu, chez Perrin, 190 pages, 13,80 €. Merci encore à vous, c'était un grand plaisir.
Merci de votre invitation.